9. À grande eau. Jeunin la venue, va-t'en aux étuves. Et toi, la venue, jeunin la venue, si te lave nu et te baigne escuve, jeunin la venue, va-t'en aux étuves. Attribué à François Villon. Un peu étourdi par le voyage et par le vin, Ivorin de Kéan levait le visage vers le jour terne qui tombait, très haut, du puits que formaient les tours. La basse-cour du château de Verre était relativement spacieuse, mais les fortifications qui la saignaient se dressaient si vertigineuses qu'elles donnaient aux visiteurs l'impression d'avoir chuté au fond d'un ravin. Le franchissement du deuxième châtelet débouchait sur un monde minéral fait de murailles, de contreforts et de pénombres. Fini les mornes perspectives des bois funéraires. L'horizon ne portait pas à plus de 30 pas, et les remparts étaient si massifs qu'on n'entendait même plus la rivière. En fait, un tapage extraordinaire assourdissait cet espace clos. Les voix des hommes, les fers des chevaux, les aboiements des chiens s'y répercutaient dans un vacarme de ville. Après le silence lugubre des forêts, cette chape de bruit croulait soudain sur le voyageur et le claustrait doublement en fond de forteresse. Tout le château s'activait comme une ruche. Les sentinelles avaient vu de loin leur seigneur et sa dame revenir avec une compagnie. Aussi, Méléagant n'avait-il pas eu à prononcer le moindre mot. Quand la troupe avait débouché dans la cour, tout un peuple de valets l'attendait déjà. Tandis que les palefreniers s'emparaient des brides qu'on leur tendait, des échansons présentaient le pain et le sel aux hôtes de passage et offraient le vin de l'étrier à tous les cavaliers. Soucieux du confort de ses invités, Méléagant ordonna qu'on chauffât sans tarder les étuves et se proposa de partager leur bain. Malgré la mine chagrine prise par Blancandin, depuis qu'il avait appris la pendaison de leur ancien maître, son frère aîné lui prodiguait plus que jamais des démonstrations d'affection. Il n'entendait pas se séparer de lui, fût-ce pour un moment. En attendant que l'eau fût chaude et les cuveaux remplis, Méléagant invita ses hôtes à rester dans la cour, car, s'écria-t-il d'un air réjoui, il brûlait de leur montrer quelque chose. C'était en attendant ce spectacle qu'Ivorin sirotait son vin avec ses compagnons de route, étourdi par la hauteur des murs. « Tiens, des chauves-souris !» remarqua son écuyer Bribra. En effet, une dizaine de pipistrelles tourbillonnaient en tous sens au niveau des étages. Bribra avait motif à s'étonner. Il faisait encore froid. Il était vraiment tôt dans la saison. Et la nuit n'était même pas tombée. Mais l'architecture de Verre retenait davantage l'attention d'Ivorin que le balai silencieux des bestioles. Il admirait le grand nombre de statues qui le toisaient du sommet de l'édifice. Alors que vers l'extérieur, les tours étaient couronnées de gargouilles, à l'intérieur, c'était de hautes effigies qui sommaient pignons et corniches, ainsi que les arches étranges du château célestiel. Se dressaient là-haut, grandeur réelle, les figures un peu ébréchées de ducs, de barons et de prélats. Les seigneurs posaient le poing sur le cœur en signe de courage. Les ecclésiastiques élevaient une main en un geste de bénédiction. Le jeune chevalier de Kéan s'émerveillait de les découvrir si nombreuses et altières, malgré la fuite des siècles, car ces statues étaient évoquées dans plus d'une chanson de gestes. Il s'agissait de la garde de pierre de l'enchanteur Sénargent. Selon certaines versions, leur seule présence rendait le château inexpugnable. Selon d'autres, Sénargent les avait jadis animés avec des âmes, rétives au maléfice de l'archonte Insanias. Un détail marquant attirait toutefois l'attention sur les façades de la cour. Le même mascaron se démultipliait sur le linteau des portes et l'arc des fenêtres. Il s'agissait d'une tête de cerf. Quoi de plus normal que le meuble des armes ducales ornât l'un des châteaux de la lignée? Mais ces masques tiraient vers le grotesque plus que vers la figure héraldique. Leur bois donnait naissance à une feuillaison de pierre. Plus singulière encore, au lieu d'être horizontale, la pupille de ses serres avait été sculptée verticale. Cela leur prêtait un étrange regard de chat. Était-ce l'effet conjugué de la fatigue et du vin ? Ivorin eut la sensation que ses yeux de tuffeau, dispersés sur divers étages, convergeaient tous vers lui. Une nouvelle animation vint rapidement le distraire de cette bizarre impression. Sortant des écuries où venaient d'être menés les chevaux, des écuyers amenèrent par la bride deux destriers splendides. Les cavales avaient tant de prestance que parmi les chevaliers et les écuyers, on se récria d'admiration, y compris chez les prud'hommes qui les reconnaissaient pour avoir servi dans l'hôtel de la duchesse Odéhard.
Voici Bastetal et Guéredan, se rengorgea Méléagant. Je vous mets au défi de trouver meilleur chargeur dans tout le duché.
D'un signe, le seigneur de Vert ordonna aux écuyers de faire tourner les destriers afin qu'on pût apprécier à loisir leur allure. Le premier possédait un poil uni d'un noir brillant. Il encensait en agitant une tête noble, au front large, au-dessus d'une encolure rouée et de larges épaules. Son dos court, sa croupe puissante, ses jambes robustes à longs fanons respiraient la force. Un peu moins rassé, peut-être, le second cheval rayonnait de puissance. C'était une montagne musculeuse à la robe gris pommelée, au chanfrein carré et plat, au poitrail compact, dont les pâturons massifs et les énormes sabots faisaient sonner le pavé comme un tambour.
Bastetal m'a été offert par père, le jour où il m'a fait chevalier, expliqua Méléagant en désignant les talons noirs. Il faut savoir le tenir, car il a le sang chaud. C'est le roi des chevaux, il ne supporte pas qu'on le défie. Il lui faut toujours surpasser l'adversaire. Plus le destrier opposé est fort, plus mon Bastetal se déchaîne. Quand l'ennemi est redoutable, le monté revient à chevaucher l'orage.
Montrant ensuite le chargeur pommelé, le seigneur de Vert poursuivit.
Guéredon a moins de feu. Mais on ne peut rêver meilleur compagnon dans les mêlées et les traquenards. Calme, obéissant, le cœur ferme, c'est un rocher dans la tempête. Les assauts se brisent sur lui comme sur une tour.
Il prit quelques instants pour flatter l'encolure des deux redoutables cavales, avec un mélange de fierté et de tendresse. Puis il se tourna vers son frère.
Qu'en penses-tu, Anda ?
Lui lança-t-il.
« Ils sont magnifiques, » répondit son cadet qui parut en oublier sa contrariété.
« À Sacralia, je crois que même le grand maître Venance n'en a pas de plus noble. »« Alors, ils sont à ton goût ?»«
Bien fou celui qui ne les louerait pas. »«
Dans ce cas, ils sont à toi !»
Un bref moment, Blancandin parut ne pas avoir entendu. Puis, il afficha une mine plus abasourdie que réjouie.
Tu n'es pas sérieux, balbutia-t-il. Je te dois déjà la liberté, c'est beaucoup trop.
Méléagant éclata de rire.
Rien n'est trop beau pour mon frère, s'exclama-t-il. Mais ces chevaux te sont chers, comme la prunelle de mes yeux. Et justement, le cadeau n'en a que plus de prix.
Cependant, Blancandin continuait de refuser de la tête.
« Je suis plus touché par ton geste que je ne saurais le dire, » concéda-t-il. « Mais je ne puis recevoir un présent si royal. Je m'en voudrais de te soustraire ces merveilles. Afin de ne pas t'offenser, je consentirais peut-être à accepter l'un de ces chevaux, mais pas les deux. De toute façon, je n'en aurais pas l'usage. »
Une ombre de contrariété assombrit l'expression du seigneur de Vert, bientôt chassée par un nouveau sourire.
« Ah, Andin ! Andin, tes moines t'ont trop bien dressé !» le taquina-t-il.
« Beau doux frère !» renchérit Azalaïs à l'adresse de Blancandin. « C'est mal connaître, monseigneur, que de refuser ses largesses. Il va se piquer au jeu, vous en offrir davantage ? » Et vous ne saurez que faire de toute cette écurie.
Méléagant salua son épouse d'une courbette amusée, puis en revint à son cadet.
« Ne crois pas que ce présent est fait sur un coup de tête, » lui dit-il. « C'est un geste mûrement réfléchi. »
« Oh, je n'en doute pas, » répondit Blancandin d'un air songeur. « Tu ne peux pas partir en guerre contre père avec le cheval qu'il t'a offert. Céder le destrier est une façon de rompre avec le duc. Et comme tu aimes cet animal, tu l'offres à quelqu'un de tes proches. De plus, si l'on me voit monter Bastetal sur la lice, le défi lancé à père n'en sera que plus cinglant. Cela, je le conçois fort clairement. Et bien que ta générosité m'oblige, j'accepte ce cheval pour servir les intérêts de madame ma mère, mais je t'en prie, garde Guéridon. Que ferais-je d'un autre destrier? Il te sera précieux dans les mois à venir. »
Le seigneur de Vert opina du chef, quoique son sourire se nuança de condescendance.
« Bien raisonné, Andin, mais un peu court. La réflexion que tu viens de faire, ils seront nombreux à la tenir. Dès lors, que pensera-t-on de moi? Je me suis débarrassé du cheval juste pour offenser père? Et que pensera-t-on de toi? Que tu n'es que l'instrument de mes desseins? Ton honneur et le mien en seraient entachés. Pis encore, tu vas recevoir la collée de la main d'Anguzel. Dans l'opinion des cours, les armes qu'il t'offrira à cette occasion pèseront plus lourd que le destrier que je te donne. Voilà pourquoi je t'offre ces deux montures royales. De la sorte, le doute ne sera pas permis. Tu ne passeras point pour le vassal de Kimark, tu resteras un Bromel. »
Dans l'assistance, Gérian de Froeck ne cacha pas son déplaisir d'entendre parler de la sorte de son suzerain. Sans prêter attention à sa moue, le vieux sire Engoran donna son sentiment.
« Mon cher Blancandin, » fit-il, « la décision de votre frère est plus sage qu'il ne le dit. Alindinas, vous allez descendre sur le pré. Vous y serez fraîchement adoubé. À la fois fils de duc et, par dévotion à madame votre mère, rebelle à l'autorité ducale. Vous y serez une prise de choix. Les chevaliers du dehors se presseront pour vous assaillir. Ceux qu'au resplendissant ne plaise, si vous êtes capturé, que ferez-vous? Soyez assuré que mon seigneur, votre père, paiera votre rançon rubis sur l'ongle pour faire de vous son prisonnier. Il faudra donc vous racheter, sitôt pris, de crainte de tomber dans la puissance du duc. Or, vous n'avez ni fief, ni apanage. Comment regagnerez-vous votre liberté? Céder l'un de ces chevaux de haut parage vous sortira de l'ornière. Vous me voyez déjà pris? C'est accorder peu de valeur à mon bras.
Hélas, intervint Ivorin. Ces accidents arrivent au meilleur. »
Se rapprochant de son frère, Méléagan lui passa le bras sur l'épaule.
« Allons, prends-les donc tous les deux, » insista-t-il sur un ton chaleureux. « Avec Bastetal pour la joute et Guéridon pour le tournoi, je te jure que personne n'aura le dessus sur tes armes. Dis-moi, t'es-t-on sûr et t'ont quand même laissé monter et courir la quintaine ?»«
L'ordre radieux reste un ordre combattant. » répliqua Blancandin sur un ton un peu pincé.
« À la bonne heure! Quel plaisir ce sera de te voir baisser les bois! Je ne te décevrai pas, et je me fais une joie de chevaucher à ton côté. Oui, oui, bien sûr, nous en reparlerons. Alors, c'est décidé, plus de scrupules. Acceptes-tu ces deux beautés?
Je n'ai pas assez de vertu pour les refuser longtemps.
Splendide! Ces chevaux t'appartiennent. Le bonheur de te les offrir éclipse la tristesse de m'en séparer. »
Alors qu'ils échangeaient ces mots, la cour du château n'avait cessé de s'assombrir. Avec une rapidité stupéfiante, le vol de chauves-souris s'était accru de dizaines, puis de centaines d'oreillards. Cette myriade de visiteuses ailées formait à présent au-dessus des tours un essaim comparable à un grand banc des tourneaux, dont les tourbillons dessinaient un siphon noirâtre sous les nuages. Sur les remparts et dans la cour, de plus en plus de monde levait les yeux vers ce silencieux prodige. l'ombrageux Bastetal, troublé par cette nuée, se mit à broncher et à battre du pied.
« Je n'aime pas beaucoup ces oiseaux-là, » énonça Azalaïs.
« Quelle multitude !» s'étonna Dame de Maubronas. « Je n'en ai jamais vu autant. J'espère qu'il ne faut pas y voir un signe. »«
N'y prêtez pas d'importance !»
éluda Méléagan avec un geste désinvolte.
« Nous sommes à Vert, le château est plein de bizarreries, mais rien qui porte à conséquence. »
Le prince ordonna néanmoins à ses écuyers de remettre les destriers à l'écurie avant qu'il ne se montrât trop nerveux. Puis, se tournant vers ses hôtes, il lança gaiement
« Eh bien, l'eau doit être chaude et les cuveaux remplis. Nous laverons-nous des fatigues du voyage et de la chasse ?»
Un cœur d'assentiment lui répondit. S'adressant alors à son épouse, Méléagan lui demanda
« Nous ferez-vous l'agrément de votre présence, madame ?»«
Parbleu !» rétorqua Azalaïs. « Il y aura tant de preux chevaliers au bain que je serai la dernière des sottes de vous le refuser. » Méléagan s'inclina tout en tendant la main à sa châtelaine. Les remerciements fusèrent, teintés de galanterie, dans la suite de Blancandin. Seul le jeune homme ne sut trop que dire et évita de croiser les yeux de son audacieuse belle-sœur. Ivorin fut également troublé, mais pour une autre raison qu'il répugnait à reconnaître. À son cœur défendant, il sentait bien que le charme de la dame de verre était dangereux. Il craignait que dans l'intimité de l'étuve, les appâts de sa belle hôtesse ne lui fissent oublier ceux de la sublime Héloïse. Par commodité, la baignerie du château était située au rez-de-chaussée, dans la tour d'Esperte. L'architecture défensive l'avait toutefois privé d'un accès de plein pied. Il fallait d'abord monter un escalier de bois assez raide, construit le long de la façade, pour accéder à l'entrée de la tour. À l'intérieur, une nouvelle volée de marches redescendait vers l'étuve. Celle-ci, installée dans le bâti le plus ancien de Vert, occupait une salle basse au mur de schiste sombre. Les invités du prince n'en virent pas grand-chose. Mal ventilées, les étuves disparaissaient dans une épaisse buée. C'était heureux en un sens. Cette pièce avait fait partie de l'antique hostellerie du desséché avant de se retrouver incluse dans les fortifications. Le linteau de la cheminée et les clés de voûte portaient encore des bas-reliefs de crânes édentés. Mais les fumées soufflées par les chaudrons et les grands cuveaux de bain brouillaient ses vanités dans un flou balnéaire. Quatre vastes baquets de bois, éclaboussés par les lueurs de l'âtre et couronnés de dais comme des alcôves, se faisaient face autour de l'espace central de la pièce. Il régnait en cette salle une chaleur si chargée de vapeur qu'on avait hâte d'y quitter ses habits. Chaperon, Aumus et Houppelande furent récupérés en un tournement par valets et écuyers. Dans un joyeux charivari, bottes et souliers chures, juste aux corps et pourpoints, furent déboutonnés avec impatience. La chair parut sous le linge, les choses tombèrent sur les mollets, et ce fut à peine si toute cette noblesse épissa ses bavardages de quelques mots plus verts. Bien qu'il essayât de n'en rien montrer, seul Blancandin paraissait emprunté. Au cours de son noviciat dans l'ordre radieux, il avait certes l'habitude de faire sa toilette en communauté, mais il ne s'agissait que de rapides ablutions au lavatorium de la commanderie, où il était rare que l'on se dénudât complètement. La présence de la belle Azalaïs et de ses demoiselles de compagnie au milieu des hommes lui donnait quelques gaucheries. La jeune châtelaine, quant à elle, paraissait nager dans son élément. Mieux encore, elle rayonnait telle la reine du bain. Alors que les seigneurs se dévêtaient par eux-mêmes en abandonnant leurs atours à leurs suivants, Azalaïs se fit déshabiller par ses femmes. Les bras écartés dans un essor gracieux, elle apparut dans tout l'éclat de sa féminité lorsque la dernière cotte lui fut ôtée. Elle s'enroula certes dans une serviette pour gagner le baquet où son mari venait déjà de se plonger, mais une fois grimpée sur l'escabeau qui permettait d'enjamber le rebord, elle laissa tomber le linge et ne fut plus vêtue que du turban noué sur sa chevelure. Ainsi perchée, elle avança la jambe et prit le temps de tâter du pied si l'eau était à son goût. Un long instant,
elle offrit sa nudité triomphante au regard de la compagnie. Du coin de l'œil, elle vérifia que tous les hommes appréciaient sa gorge exquise, son ventre un peu arrondi, la finesse de sa taille et le galbe de ses fesses. Puis, avec un rire, elle se coula dans l'eau et vint lascivement se lever dans les bras de son mari, tout en lançant une œillade de défi au polisson qui la guignait de façon trop insistante. Seul le châtelain, sa dame et les chevaliers se baignèrent ainsi. Écuyers et demoiselles de compagnie restaient à leur service et ne pourraient brièvement profiter des cuveaux que lorsque leur maître les aurait quittés. Quoiqu'ils ne fussent point adoubés, Blancandin et Rivalon bénéficièrent cependant d'un passe-droit. Le premier en raison de sa naissance, le second par dilection du seigneur de Vert. Assez spontanément, les chevaliers se répartirent les autres cuveaux que celui du couple seigneurial. Après une brève hésitation, Blancandin voulut gagner le baquet où se trempaient déjà Dame de Maubrenas et Cohir de Thèves.
« Mais que fais-tu ? » s'étonna Méléagant. « Rejoins-nous donc !»«
Beau doux frère, vous nous avez tant manqué !» renchérit son épouse.
« Venez rattraper le temps perdu !»
Tout en fuyant des yeux les jolis seins de sa belle-sœur, le damoiseau se plia à cette demande. À peine était-il juché sur l'escabeau qui lui facilitait l'accès au baquet, Azaleïs lui tendit un bras mouillé pour l'aider à descendre dans l'eau. Blancandin, qui portait pudiquement un linge sur les reins, hésita à s'en débarrasser au nez de la mutine.
« Allons, allons, point de manière dans la famille !» badina Méléagant.
Le feu aux joues, son cadet se dénuda. S'il accepta l'aide de la délurée, il en détourna le regard. Celle-ci le dévisageait en riant.
« Voilà trop longtemps qu'on vous a écarté des cours, beaux doux amis !» le taquina-t-elle.
Le vieil Engoran, prenant son ancien pupille en pitié, crut bon d'intervenir.
« En bonne courtoisie, ce sont les hommes qui servent les dames » remontra-t-il.
« Croyez-vous ? » repartit la châtelaine. « J'ai entendu dire plus d'une fois à la duchesse que ce sont les dames qui sont servies aux hommes. » Entre la jeune femme et les prud'hommes dans le plus simple appareil, cette petite passe d'armes ouvrit un débat fort savant sur le service des dames et le déduit que les chevaliers étaient en droit d'espérer. Les circonstances, mais aussi le confort dans lequel se prélassait la société, s'y prêtaient à merveille. Les cuveaux étaient matelassés pour garantir la peau de toute écharde, et des tabourets immergés permettaient commodément de s'asseoir. Pour que l'agrément des baigneurs fût complet, les valets installèrent une table devant chaque baquet. Tranchoirs et plats y furent bientôt disposés, tandis qu'une desserte éloignée du feu accueillait les aiguières. Le seigneur et ses hôtes purent se régaler de sabouraux de poussins ou de boussacs de lièvre aux épices, tandis que des échansons remplissaient à la demande les coupes de clairet, de vin de sauge ou d'hypocras. Dès que les cuveaux tiédissaient, valets et servantes y déversaient de l'eau chaude. Ainsi le prince de Vert, sa dame et leurs invités purent-ils se délasser à loisir en mariant les plaisirs du bain, de la bonne chère, et de la conversation. La discussion finit par rouler sur le débat de la possession du corps et du cœur, et sur la question de savoir si l'amour montré engageait davantage que l'amour scellé.
Ah, quel dommage que Madame la Duchesse ne soit point des nôtres,
finit par déplorer Dame de Maubrenas.
En trois mots, elle nous eut tous mis d'accord. Les cours d'amour qu'elle tenait naguère font cruellement défaut,
renchérit Cohir de Thèves.
Combien de malentendus et de discordes chez les fins amants depuis qu'elle ne rend plus ses arrêts.
Ce n'est point à la Tchoudalienne que l'on pourra soumettre pareille délibération,
ricana le sire de Maubrenas.
Quoique je n'ai jamais eu l'honneur de la rencontrer, on dit pourtant dame clarissima lettrée et plutôt galante,
observa Yévorin.
Lettrée, dites-vous, chevalier ? Persifla le prince de Vert.
« Oh, certainement, au point de faire sienne les maximes dépravées des petits maîtres de Tchoudalia. »
« La licence est tout le contraire de la courtoisie, »
crut bon de distinguer Azalaïs, en s'étirant de façon étudiée pour mettre ses charmes en valeur.
S'il n'était question que de courtoisie, énonça Blancandin d'un air sombre. Il y a plus grave. Il y a l'enfant.
Tout en entreprenant de frotter le dos de sa femme, Méléagant haussa les épaules.
« Ah, ne te mets pas martel en tête pour ce nourrisson !» lança-t-il. « Il est bien jeune. Vivra-t-il seulement jusqu'à l'an prochain ?»
La putain de Tchoudalienne n'a eu si vite, enragea son frère.
« Elle est féconde. Elle en aura d'autres. Et en plus, elle a eu le front de l'appeler « les guerres ».« Les guerres !» Voilà deux siècles que notre famille avait renoncé au nom de la dynastie royale. « Grand bien lui fasse !» railla le prince de Vert. « Tant de prétentions, c'est assez ridicule. Surtout pour un demi-bâtard qui n'est que quatrième dans l'ordre de succession ducale. Prends garde à ses calculs, Mel. Moi qui viens de croupir 4 ans dans la principauté du Sacre, j'en suis revenu avec une certitude. Les chevaliers de l'ordre rêve plus que jamais de restaurer la couronne. Ce prénom royal est une perche que leur tend la vipère. Oublies-tu que son propre frère appartient à l'ordre? Ne dit-on pas que l'ordre a pris parti pour sa famille lors de la guerre civile tudalienne? Ce morveux est un péril. Pas seulement parce qu'il est de notre sang. Il a été conçu pour rallier Tchoudalia et l'ordre dans une conjuration contre nos droits. Mais... sur quel royaume régnerait ce marmot? Sur la terre gaste des Landes Grises? Sur les ruines maudites de Chrysophée? Sur la république de Tchoudalia qui a détruit la Léomance pour reconquérir sa liberté? Quant au duché, Andin, il ne revient à nous, les fils aînés issus de mariages légitimes. Crois-moi, ce bambin est le cadet de nos soucis. Ce sont plutôt nos autres demi-frères dont nous devons nous garder. Domnal et Lanval.
Comme toi, je redoute Domnal en tant que capitaine, convainc Blancandin. Mais ce n'est qu'un bâtard. Il compte pour rien dans l'ordre de succession.
Justement, repartit le seigneur de Vert. Sa fortune dépend entièrement de la volonté de père. Il en sera le plus fidèle exécutant.
Quant à Lanval, c'est un incapable. Certes, le droit d'aînesse plaide pour lui, mais il est trop mélancolique pour gouverner. Même père l'a longtemps écarté. Accéderait-il au trône ducal, il ne le conserverait guère.
Ne le sous-estimez pas, monseigneur, intervint Gérian de Froec. J'ai eu l'occasion de combattre avec lui contre des incursions romandes dans la vallée de la Claye. Je ne nierai point que le seigneur Lanval est lunatique, mais il est aussi aguerri. Je l'ai vu accomplir des prouesses au milieu de l'ennemi.
Les cicatrices qui zébraient les avant-bras du chevalier, posées en évidence sur le rebord du cuveau, donnaient plus de poids à sa mise en garde.
« Lanval a surtout l'appui de Brocmel, » ajouta Méléagan. « C'est un fâcheux coup du sort. Alors que les comtes de Brocmel ont longtemps été hostiles à Père, la répudiation de Mère en favorisant le retour en grâce de Lanval a modifié la position d'Angresse. L'espoir de voir son cousin Germain hériter du duché va le ranger contre nos intérêts. Angresse de Brocmail est autrement à craindre que le fils de la Tchoudalienne.
Mais vous avez le soutien de Monseigneur Anguzel, rappela Gérian.
Oui, et c'est un concours précieux que celui de Kimark et de ses vassaux,
salua Méléagan.
Quand nous aurons délivré Madame ma mère, Sire Gérian, elle pèsera de tout son poids pour que le comte Anguzel et ses héritiers n'aient plus à prêter hommage à Brocmel.
Tout en essuyant le savon qui moussait sur le pied de son hanap, le vieil Engoran jugea bon de modérer ses engagements précipités.
« Ne vendons pas trop vite la peau de l'ours, »
grommela-t-il.
« Le duc et Brocmel sont de rudes adversaires. S'ils se liguent contre nous, nous aurons affaire à forte partie. » D'autant plus forte que la Tchoudalienne a rempli les coffres de son Altesse votre père. Il a désormais les moyens de soutenir une longue guerre.
D'où l'intérêt d'un tournoi,
sourit le seigneur de Vert.
Nous jetons le gant sans ouvrir les hostilités.
Ce sera vrai si nous perdons sur la lisse, spécula Dame de Maubrenas. Mais si nous l'emportons
et je fais serment de combattre jusqu'au dernier souffle, plutôt que de me rendre. Alors l'enthousiasme que nous soulèverons dans le parti de la duchesse mécontentera le duc. De dépit, il pourrait bien prendre les armes.
Tout dépendra de la proportion de vassaux que nous rallierons à la cause de madame ma mère, répondit Blancandin.
Certains seigneurs resteront assurément fidèles à votre père, rétorqua le sire de Maubrenas. Le connétable de Traval, la baronne de Brégor, le seigneur de L'Aulnay, et même le prudent Rhinfroid du Trèfle. Épaulé par les forces de Brockmail, cela forme toujours une solide troupe.
Cette perspective n'avait pas l'air d'inquiéter Méléagan, qui blottissait le dos de sa jeune épouse contre sa poitrine.
« Notre dessein est de faire du bruit à Lindinas, » expliqua-t-il. « L'idéal serait de l'emporter. Mais même une défaite peut servir nos intérêts. Suffit qu'elle soit glorieuse et que nous obtenions à tout le moins le prix de courtoisie. Nous ne réclamerons pas que Madame ma mère retrouve son titre. » Nous demanderons juste qu'elle récupère sa liberté et son douaire. Mon père est large, là réside sa force et sa faiblesse. Si nous montrons suffisamment de vaillance, comment pourra-t-il nous refuser cette faveur sans perdre la face? Il suffira ensuite que madame ma mère paraisse en public, et je vous donne ma main à couper, que les indécis et les mécontents rallieront sa bannière. Les Maginois, les Landviès, les Combes Noires marcheront avec elle.
À votre avis, Sire Ivorin, de quel côté penchera le comte de Belle-Estance ?
Je ne saurais me prononcer pour mon suzerain, répondit prudemment le jeune chevalier. Monseigneur d'Odinel tient en haute estime l'honneur des dames, mais je le vois mal rompre son hommage au duc.
Et qu'en est-il de cet inconstant ? Le sire de Vaumacel,
sentit le seigneur de Vert.
L'avez-vous trouvé sur le chemin de la principauté du Sacre? Lui avez-vous signifié notre mécontentement et notre invitation à racheter sa faute?
Il était déjà de retour au duché quand nous avons croisé sa route, répondit Blancandin. Cet imbécile comptait se présenter seul devant père pour rétablir l'honneur de notre mère. Voilà du moins ce qu'il a prétendu. Il a accepté de se joindre à notre conroi, même si je ne suis pas certain qu'il respectera son engagement.
« Il a donné sa parole, et j'en suis le garant, » rappela Ivorin.
« Vous lui accordez plus de crédit que je ne l'en crois digne, » rétorqua le jeune Brommel. « Mais du moins suis-je heureux d'avoir gagné le soutien d'un homme de votre droiture, chevalier. »
Le compliment toucha d'autant plus le bachelier qu'il lui valut de la part d'Azalaïs un regard flatteur qui s'attarda sur ses larges épaules.
« Pour ma part, je ne me plaindrai point si Vaumacel nous fait faux bond. » clama Dante de Maubrenas. Sauf votre respect, monseigneur Méléagan, je continue à trouver fort douteuse sa présence dans notre parti. Son absence au procès de madame la duchesse laisse planer le doute sur l'honnêteté de leur rapport. Sa réapparition au pardon d'armes pourrait desservir la réputation de madame Odéhard.
En vérité, releva doucement le seigneur de Vert.
« Serais-tu de ceux qui croient ma mère adultère, Maubrenas ?»«
Loin de moi, pareil vilainie. Mais nous parlions de rallier les indécis. Je ne suis pas sûr que Vaumacel nous y aide. »«
Le chevalier de Vaumacel nous apportera un renfort précieux sur la lice, » ajouta Cowir de Thèves. « Mais je partage les réserves de mon ami Dame. Tyredan est fort honni dans le duché. » tant par le parti de votre père que par celui de madame la duchesse. Sa présence dans nos rangs jettera le trouble.
Justement, sourit Méléagan. C'est tout l'intérêt de son concours. Tout le duché va bruire du scandale. Après cela, le moyen pour père de se dérober au débat.
Mais n'est-ce pas pousser la pointe un peu loin? Interrogea Maubrenas. L'évasion de monseigneur Blancandin et son adoubement par le comte Anguzel suffisaient pour défier le duc.
Cela porte atteinte à son autorité de père, intervint Azalaïs. Mais le fond de la querelle est une affaire de femme. En défendant l'honneur de madame Odéhard, le chevalier de Vaumacel accusera le duc de s'être comporté en tyran jaloux. Dans les cours,
on ne parlera pas seulement de la révolte des fils, mais de l'injustice dont Madame la Duchesse a été la victime.
C'est frotter du sel non sur une, mais sur deux plaies,
commenta le sire de Thèves.
Monseigneur le duc pourrait perdre toute mesure.
Mon père est emporté. Mais c'est aussi un homme d'expérience,
jugea Méléagan.
La guerre du Hériban lui a servi de leçon. Il y réfléchira à deux fois avant de replonger le duché dans une guerre de famille.
En jureriez-vous ? Demanda Gérian de Froeck, sur un ton circonspect. Dans le comté de Quimarc, il court de fort vilaines histoires sur la mort de votre oncle. Ne faut-il pas s'attendre à tout de la part d'un homme pareil ?
Ah, Froeck, ces bruits ne sont que calomnies, se récria le seigneur de Ver. Mon père n'est pour rien dans la mort de son frère. C'est ce fou de Vertigier qui a couru à sa perte.
Et pourtant, quand il a été tué, Monseigneur Vertigier avait pris le parti de votre grand-père, le duc Griffon.
Oui, mais après l'avoir trahi et durement combattu. Cette querelle fut tragique. Voilà pourquoi je pense que père, qui en a cruellement souffert, n'osera pas renouveler l'aventure. En toute franchise, Froeck, vous me désobligez à colporter ces infamies. Ce n'est pas parce que je désapprouve mon père que je le considère comme un fratricide. Tenez, Engoran va vous le dire, lui. Il est le seul parmi nous qui portait les éperons à l'époque. Comptez-leur donc, Engoran, la vérité sur cette maudite guerre.
Le vieux chevalier parut surpris par cette injonction. Son expression se fit soucieuse.
Mon cher seigneur, ce sont de tristes souvenirs que vous convoquez là.
Je n'en porte point la faute,
rétorqua Méléagan avec quelque aigreur.
Mais je ne peux laisser Sir Gérian croire aux mensonges qui courent dans l'entourage d'Anguzel. Allons, Engoran. Dites-leur ce que vous avez vécu.
Le vétéran secoua sa tête blanche avec réticence.
Je n'aime guère ouvrir les vieilles blessures, maugréa-t-il. Cette guerre eut sa part de prouesses et de beaux gestes, mais tout bien considéré, elle ne fut ni glorieuse ni heureuse pour le duché. Voilà pourquoi, monseigneur votre père, ne goûte point qu'on la lui rappelle, bien qu'il ne fût coupable ni de la mort de votre oncle, ni de celle de votre grand-père. Je crois qu'il en éprouve toujours du remords.
Il se fit servir du vin et poursuivit à regret.
Peut-être le rappel de ces tristes événements nous servira-t-il de mise en garde, encore que l'origine de ce conflit n'eût rien à voir avec la cause que vous défendez aujourd'hui. Du moins, cela pourra-t-il nous enseigner qu'il est bon de rester tempérant, sur le pré comme dans les pourparlers de paix.
Ayant bu quelques gorgées, il commença son récit en prenant le temps de peser chaque parole. Tout est parti de l'usage que le duc Griffon faisait du Hériban. Quand il est monté sur le trône ducal, Monseigneur votre père a rétabli le Hériban tel qu'il était jadis pratiqué par la coutume. Ce n'est que la contribution en or que verse le vassal qui ne peut remplir son service armé. Mais sous son règne, votre grand-père avait peu à peu modifié cette pratique. Il trouvait que l'entretien du banc vidait ses coffres, alors que le Hériban les remplissait. Il préférait donc percevoir cet argent plutôt que lever le banc. Il en reversait une partie au clan d'Ouromagne pour acheter la paix. Cette politique n'était pas sans accrocs. Il y avait toujours ici ou là une incursion de pillards et quelques guerres privées entre maisons vassales. Mais dans l'ensemble, le duché s'en portait plutôt bien. Les villes et les campagnes prospéraient. Le clergé saluait la sagesse du duc. Le vieux chevalier poussa un soupir.
La noblesse, en revanche, s'en irritait. Le Hériban, à son gré, ne représentait plus une compensation, mais était devenu un impôt. Barons et chevaliers s'insurgeaient d'être tondus comme des vilains. Plus outrageant encore, il trouvait déshonorant que Bromel versa un tribut aux barbares d'Ouromagne. Beaucoup pestaient que c'était se comporter en vaincu,
alors qu'il brûlait de défendre les marches du pays, les armes à la main. On disait que le duc Griffon était devenu âgé et faible, qu'il gouvernait désormais comme un clerc et non plus comme un chevalier. Les mécontents placèrent leurs espoirs dans son fils aîné, Monseigneur Vertigier. Celui-ci, comme les jeunes chevaliers, brûlait de s'illustrer contre les Ouromans plutôt que de mener une existence confortable et oisive. Peut-être était-il également impatient de régner. Il prit la tête de la révolte. Il s'empara de plusieurs châteaux, dont celui de Verre, qu'il tenait en apanage, mais les villes favorables à la politique ducale offrirent à Monseigneur Griffon le soutien de leurs milices. Monseigneur votre père, Ganelon, prit aussi le parti de votre grand-père à la tête d'une poignée de chevaliers dont j'étais, avec Fitzurse du Havne, Burchard de Gelde et le futur connétable, Anaro de Traval. Pendant quelques mois, la guerre embrasa le duché. À très grands traits, les félons contrôlaient les campagnes, tandis que le camp ducal tenait fermement Chaer-le-Duc, Caroël, Kelsbruck, Longomor et Weckinsberg. Monseigneur votre père et son ami Anaro se couvraient de gloire sous le harnois, mais cela ne suffisait point à faire la différence. Alors Monseigneur Ganelon eut une idée qui changea le cours de la guerre. Il fit alliance avec les Ouromans. Sir Engoron branla du chef d'un air désolé. Le duc Griffon était opposé à cette stratégie. Mais Monseigneur Ganelon n'en fit qu'à sa tête et envoya des émissaires secrets au-delà de la Claye. L'initiative était aussi simple que dangereuse. Il s'agissait de peindre aux chefs barbares en quoi la rébellion de Vertigier nuisait à leurs intérêts. Elle interrompait le versement du tribut, alors qu'une victoire ducale le rétablirait. Plusieurs clans saisirent l'occasion au vol. Prétendant secourir le duc, les Artclyde, les Catuat, les Viga, les Seada et bien d'autres scélérats se liguèrent. Ils franchirent la Claye, assiégèrent Brocmail, mirent les campagnes de Kimark à feu et à sang avant d'entrer plus avant dans le duché. Pris entre le marteau et l'enclume, Vertigier et les rebelles se résolurent à traiter. Ils se dirent prêts à faire amende honorable et à reconnaître l'autorité de Monseigneur Griffon, pourvu que tous unissent leurs armes contre l'envahisseur. La réconciliation fut scellée au cours d'une grande fête à Longomor. Hélas, ces réjouissances ne furent qu'un feu de paille. Le duc Griffon pécha par indulgence. Tout à sa joie de mettre un terme à cette querelle, il accorda un pardon sans condition aux rebelles. Cela inquiéta ceux qui étaient restés loyaux au pouvoir légitime, et tout particulièrement Monseigneur votre père. En effet, le duc Griffon était déjà diminué par les épreuves et la maladie. Amnistié, Vertigier redevenait son héritier naturel. Pour les partisans du duc, cette victoire risquait d'être sans lendemain. La disparition future du suzerain, en conférant la dignité ducale à Vertigier, eut à terme scellé leur ruine. L'expression du vieux prud'homme respirait à présent l'amertume et les regrets. La plupart de ses auditeurs connaissaient plus ou moins le dénouement et devinaient qu'il s'en approchait. Ils savaient aussi que la faveur qui lui avait plus tard valu d'être nommé gouverneur des enfants du duc lui venait d'avoir soutenu Ganelon de Bromel dans sa jeunesse. Engoron avait joué un rôle dans les événements qu'il s'apprêtait à rappeler. Avec le soutien de ses chevaliers, poursuivit-il sourdement. Monseigneur Ganelon fit pression sur le duc pour qu'il revînt sur sa mesure de grâce. Monseigneur Griffon s'en offusqua. Il fut défendu par Monseigneur Vertigier et ses gens. On échangea des mots vifs de part et d'autre. Les épées furent tirées. Le sang coula dans les rues de Longomor. On se battait à présent à front retourné. Le duc Griffon et Monseigneur Vertigier se réfugièrent dans le château de Mordune, qui défend le port et l'estuaire du Vernobre. Monseigneur Ganelon et ses gens firent mine d'y donner l'assaut.
Tout cela s'opéra dans la plus grande confusion. Rien n'était prêt pour un siège. Et il eût suffi d'attendre quelques jours pour que la situation s'apaisât. Mais Monseigneur Vertigier était furieux. Il improvisa une sortie. On se battit sous les murs, et grâce à la vaillance de Monseigneur Anaro, le parti de Monseigneur votre père eut le dessus. Monseigneur Vertigier donna l'ordre de battre en retraite à l'abri de l'enceinte. Il était presque à l'abri lorsqu'il fut tué. Engoran réclama à nouveau du vin et but longuement pour se donner du cœur au ventre.
On a raconté bien des mensonges et des calomnies sur la mort de ce malheureux prince, gronda-t-il.
Des médisants, ainsi nus que Monseigneur de Traval, doit son épée de connétable à ce meurtre, quelle calomnie. Qu'ils aillent donc le lui dire en face. C'est vrai, le seigneur de Traval et le chevalier du Havne accablaient de coups Monseigneur Vertigier. Mais celui-ci se défendait pas à pas et leur tenait la dragée haute. D'autres prétendent que c'est un tir d'arbalète qui a traîtreusement abattu votre oncle.
On voit bien qu'il n'y était pas.
Car c'était des chevaliers, des sergents d'armes et des écuyers qui donnaient l'assaut, non des arbalétriers. Les seuls traits dans ce combat étaient lâchés du haut des murs de Mordune. Nous en étions les cibles, non les auteurs. Le plus désolant de cette affaire, c'est que le malheur fut le fait des défenseurs. Monseigneur Vertigier était serré de près sur le seuil du château. En entrant, il allait entraîner à sa suite Monseigneur de Traval et plusieurs des nôtres. Des gens à l'intérieur leur jetaient des pierres du haut des murs. Ce fut l'une d'elles qui défonça le home du prince infortuné. Il fit silence un moment, les yeux dans le vague, revivant ce passé tragique qui avait fait basculer le sort de tout le duché. Quand le cri courut que Monseigneur Vertigier était à terre, d'effroi, on arrêta de combattre dans les deux camps. Loin d'avoir achevé le prince, Monseigneur de Traval tenta de lui porter secours, mais il était trop tard. La cervelle sortait par la plaie. Monseigneur Vertigier expira peu après. Une désolation terrible s'abattit alors sur tous les chevaliers et tous les barons. Monseigneur Griffon apparut en pleurs sur le seuil et prit dans ses bras la dépouille de son fils. Monseigneur Ganelon, qui ne voulait pas croire à un si cruel coup du sort, se précipita à son tour à l'entrée, où il fut maudit par son père. Il jeta alors les armes et se soumit à la justice du duc. Mais celui-ci ne souffrait plus sa vue, et ne lui accorda même pas un jugement. De son propre chef, Monseigneur Ganelon s'exila dans les îles Maroises. D'une certaine façon, ce fut la mort de Monseigneur Vertigier qui réconcilia la noblesse de Bromel dans la consternation et le chagrin. Le vieux duc Griffon ne s'en remit pas. Peu après les funérailles de son fils, alors qu'on luttait toujours contre les clans ouromans, il rendit l'âme à son tour. Ce récit jeta un froid dans l'atmosphère embuée de l'étuve. Les baigneurs nobles, mais aussi leurs servants, savaient que la mort de Vertigier leur avait octroyé la place qu'ils occupaient à la cour de Bromel. Bien que seul le vieil Engoran eût participé à ces combats, tous se sentaient un peu compromis par ces événements. Comme si le bénéfice qu'en avait tiré Ganelon avait fait d'eux les complices d'un accident qui ressemblait beaucoup à un crime. Dans un sens, leur propre révolte contre l'autorité ducale était une façon de se laver de la faute paternelle. En avait-il conscience? Blancandin ne pouvait être resté sourd aux principes rigoureux de l'ordre radieux, et l'intelligence vive de Méléagan lui permettait peut-être d'entrevoir ce motif derrière son ambition et l'amour pour sa mère. Qu'il ne renchérit point sur le récit de son vieux chevalier pour réfuter complètement les insinuations du sire de Froek suffisait à témoigner de son trouble. Ce fut finalement Azalaïs qui rompit le mauvais charme que venait de tisser ce récit.
« Quelle triste histoire, en vérité » commenta-t-elle d'un air contrarié.
Et quelle riche idée que de l'avoir compté pour célébrer nos retrouvailles. Rien de mieux pour égayer la compagnie. Mais au fait, quelle chance nous avons de nous trouver à Vers. La chapelle ducale est à deux pas. Et si au sortir du bain nous allions tous ensemble nous recueillir sur les tombeaux de messeigneurs Griffon et Vertigier?
Ah, madame, vous êtes sans pitié, dit doucement Méléagant.
Et vous, mon cher époux, vous êtes inconséquent.
Vous vous réjouissiez si fort d'offrir ces deux chevaux à votre frère. Tout l'effet vient d'en être gâché. Nous n'aurions pas dû laisser rouler la conversation dès ce soir sur de si graves sujets.
C'est ma faute, intervient Gérian de Froeck. J'ai manqué de discernement en répétant des propos injurieux.
Allons donc, se récria la châtelaine.
Sous couvert de courtoisie, sire Gérian, allez-vous battre votre coulpe? Allons-nous tous faire acte de contrition? Vous donnerez à Monseigneur Blancandin le sentiment d'avoir troqué un cloître pour un autre.
Assez de ces excuses et de ces apitoiements, pour l'heure parlons de choses plus joyeuses.
Les chevaliers se soumirent à ce désir, mais la guerre du Hériban jetait toujours ses ombres sur la société, et les échanges peinaient à retrouver la vivacité qu'ils avaient eue.
La dame de Vers s'en irrita,
et au bout d'un moment prit un autre parti.
« Vous êtes fatigué, messeigneurs, et vous manquez d'esprit, » lança-t-elle sur un air piquant. « Je vais finir par m'assoupir, et si nous écoutions un conte plus divertissant que nos vieilles brouilles de famille ?»
Bousculant de l'épaule Blancandin avec familiarité, elle le sollicita.
« Beau doux frère, n'avez-vous point quelques fabliaux un peu épicés sur vos moines et vos paladins ?»
Troublé par la requête de sa belle-sœur, à moins que ce ne fût par le contact de son corps nu, le damoiseau ne sut que répondre. La belle poussa un soupir comique.
« Mon pauvre garçon, mais vous avez dû périr d'ennui à Sacralia !»
Elle frappa dans ses mains en projetant une gerbe de gouttelettes.
« Il suffit !»
s'écria-t-elle. « Aux grands mots les grands remèdes. À moi, Rivalon !»
Figurez-vous que notre Rivalon est un peu ménestrel. C'est un puits de science romanesque. Il connaît son bel églantier sur le bout des doigts. Il va nous distraire avec l'une de ses aventures.
« Plaisante idée !» salua le sire de Froeck, pressé de faire oublier son impair.
« Comment résister au bel églantier ?» sourit Cowir de Thèves. « Connaissez-vous le roman par le menu ?»
s'étonna le sire de Maubrenas.
« Certainement pas, » répondit modestement l'écuyer.
« Mais j'en sais correctement quelques passages.
Et monseigneur et madame me font l'amitié de ne pas trop bâiller quand je les raconte. »
Azalaïs leva les yeux au ciel.
« Rivalon confond coquetterie et humilité, » railla-t-elle. « Croyez-moi, il compte comme un jongleur, et il est vraiment incollable sur le bel églantier. Tenez, je vous mets au défi. Citez n'importe quelle aventure, et il vous la récitera mieux que vous ne l'avez jamais entendue. »
Sa curiosité piquée, Ivorin entra dans le jeu.
« Je relève le gant, » dit-il. « Eh bien, Rivalon, pouvez-vous nous conter l'aventure de la lavandière de nuit ?»
L'écuyer sourit avec assurance et s'apprêtait à répondre quand sa maîtresse lui coupa la parole.
« Ah non, pas celle-là. Nous sommes trop près de la rivière. Cette aventure-là me fait trop peur à chaque fois. »
« Dans ce cas, Rivalon, pouvez-vous rapporter celle des processionnaires ?» demanda Dame de Maubrenas.
« Seigneur !» s'offusqua Azalaïs. « Vous venez de tirer mon gentil frère d'un cachot monastique et vous voulez le distraire avec un conte religieux ?»«
Eh bien, s'il vous faut un conte plus leste, que diriez-vous de l'aventure du mort jaloux ?»
proposa le sire de Thèves. Cette fois, la dame de Vers battit des mains avec enthousiasme.
« Voilà !» approuva-t-elle. « Celle-là est aussi galante qu'effrayante. Elle conviendra à ravir. »
Rivalon inclina brièvement la tête, rassembla ses esprits, et au grand étonnement des baigneurs qui ne le connaissaient point, se mit à déclamer les vers du roman.